Religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de notre émission, les Journées européennes du patrimoine ce week-end. Et puis dans la deuxième partie, la question du rire et de Dieu. Peut-on rire de Dieu, rire avec Dieu et aussi le rire dans des sociétés qui ont évacué Dieu.
Moi, j'essaie d'aider les maires des petites communes en leur disant combien ce patrimoine est important, dans la mesure où, vous savez, une église à sauver, c'est 1,5 million. Alors, dans une grande ville comme Paris, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Marseille, on trouve 1,5 million. Mais quand vous êtes dans une commune de 150 âmes, comment vous faites? Et donc là, ils ont besoin du loto du patrimoine, parce que moi, j'estime que je suis là aussi pour qu'on valorise le patrimoine religieux de la France.
Chaque année, à la mi-septembre, se tiennent les Journées du patrimoine. Journée particulièrement suivie par l'hebdomadaire chrétien Le Pèlerin qui a créé il y a 30 ans le Grand Prix Pèlerin du patrimoine pour soutenir le sauvetage de bâtiments et d'objets religieux. Ce prix est soutenu chaque année par un parrain prestigieux. Cette année, c'est Stéphane Bern que nous venons d'entendre, le journaliste et animateur chargé par le président de la République d'une mission qui doit sélectionner dans chaque département les bâtiments à préserver, voire à sauver. Avec nous en ligne, Catherine Lalanne, rédactrice en chef du Pèlerin et chargée de piloter ce Grand Prix Pèlerin du patrimoine qui a été remis cette semaine. Bonjour Catherine Lalanne.
Bonjour Geneviève.
Alors, quelle a été l'intuition il y a 30 ans du magazine Le Pèlerin et bien de créer ce prix?
Alors, une intuition toute simple, c'est que Le Pèlerin est le plus vieil hebdomadaire de France et il est très enraciné en région. Et que notre contrat de lecture avec nos lecteurs, ça a toujours été de les accompagner au plus près de leur centre d'intérêt. Et nos lecteurs qui vivent en région sont au contact, au chevet de ce patrimoine vernaculaire, de ce petit patrimoine de proximité. Et nous avons très vite compris que pour eux, il était fondamental de le maintenir debout et de le transmettre aux générations futures. Donc nous avons complété notre belle mission d'informer de ce beau combat. Aider nos lecteurs à transmettre les trésors du passé, permettre à tous ceux qui voulaient passer le relais de trouver une sorte d'appui, de soutien, de souffle à nos côtés. Et puis nous sommes convaincus, vous savez, dans notre hebdomadaire, pour reprendre cette belle phrase de Dostoïevski, que la beauté sauvera le monde. Et tout ce qui contribue, tout ce qui permet aux hommes et aux femmes de la partager, de la contempler, de la restaurer, de la sauvegarder, de la transmettre, est aussi notre combat. Voilà. Donc, c'est un combat naturel. Ce n'a pas été un combat simple. Vous savez les difficultés que traverse la presse. Et il y a peu de journaux qui s'investissent autant. Mais nous aimons au Pèlerin faire ce que nous disons et compléter nos paroles d'actes.
Et également souligner que le sauvetage du patrimoine, c'est une aventure humaine, un lieu de solidarité, transmission, voire de spiritualité, Catherine Lalanne.
Tout à fait. Les pierres parlent, mais elles nous parlent des hommes. Elles remettent l'humain au cœur. C'est-à-dire qu'on ne restaure pas aux pèlerins les pierres pour les pierres. Chaque projet qui est soutenu porte un projet. Un projet de transmission, un projet spirituel, un projet pour faire revivre une commune, pour partager la foi, pour partager la beauté. Il s'agit de remettre l'humain au cœur. On le voit hein, avec cette crise que nous traversons. Il y a 30 ans, nous étions déjà pionniers et quelque part, nous avions compris qu'à travers ce patrimoine qui nous amarre, mais qui nous permet aussi de voir l'horizon plus loin que nous-mêmes, nous tenions quelque chose d'essentiel au cœur des hommes. Quelque chose qui dit notre identité, nos racines chrétiennes, mais aussi qui se partage et qui se diffuse.
Catherine Lalanne, qui sont les lauréats cette année de ce concours, de ce Grand Prix?
Alors nous avons des magnifiques lauréats, vous imaginez bien, pour ces 30 ans, nous avons choisi des lauréats d'exception, alors très très enracinés au cœur de nos régions. Dans le Finistère, par exemple, nous avons un splendide vitrail Renaissance d'un tout petit oratoire qui borde le village de Spézet. Nous avons aussi dans les Pyrénées-Orientales un flamboyant retable baroque qui appelle des soins d'urgence du pèlerin car son bois doré nécessite du secours. À Quimper, nous sauvons la nef et la charpente d'une vaste chapelle classique. Et puis à Chaloux-Moulineux, dans l'Essonne, c'est la structure d'une église templière qui appelle nos soins. Mais surtout, nous remettons deux prix qui nous tiennent très à cœur, car nous faisons le pari de la transmission et de la jeunesse. Nous remettons un prix à une jeune artisane d'art, une conservatrice et restauratrice de sculptures, Julie Mort, et nous lançons un prix qui nous tient lui aussi très très à cœur, c'est le prix de l'apprenti du patrimoine. Nina Lefebvre, qui est notre lauréate, est une apprentie tailleur de pierre, et elle et son maître s'engagent à la fois se former et à transmettre. Et le beau prix qui lui est remis, c'est une caisse à outils. Une caisse à outils, vous savez, c'est un investissement pour un jeune apprenti du patrimoine, et cette caisse la suivra toute sa vie.
Stéphane Bern, votre parrain, le parrain du Grand Prix, est très soucieux de l'avenir du patrimoine rural et notamment des petites églises. Il dit très clairement, je crois dire que vous lui avez posé la question, pourquoi il s'intéresse autant à ce patrimoine rural, à ces petites églises. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus, effectivement, de Notre-Dame, enfin des grandes cathédrales, alors que le petit patrimoine rural, eh bien, reste un peu dans l'ombre.
C'est vrai, il a tout à fait raison et nous partageons son combat. Les 86 cathédrales de France qui appartiennent à l'État depuis la loi de 1905 bénéficient des subventions des DRAC. Mais les petites églises rurales qui ne sont pas classées, qui ne sont pas inscrites au patrimoine historique, elles sont intégralement à la charge des communes. Et vous voyez, quand une commune doit assurer les transports scolaires, l'aide sociale, construire un stade, elle n'a pas d'argent à consacrer à l'église. Or, il faut sauver cette église. Ce sont les amers de nos villages et l'âme de nos communes. C'est pour ça qu'il est si important que d'autres soutiens se mettent en place. Et nous avons su à Pèlerin, autour de nous, obtenir des soutiens et des mécénats très importants. Vous voyez, on a la fondation, on a réussi à sauver 335 projets en 30 ans, ce n'est pas rien. Et nous avons été soutenus par des grandes fondations comme la Fondation du patrimoine ou la Sauvegarde de l'art français ou encore les Chantiers du Cardinal. Et bien sûr, Stéphane Bern, dont la mission a participé elle-même à sauver 180 monuments, dont une énorme partie de patrimoine religieux, nous aide. Alors voilà, ce que nous faisons, nous, parce qu'un maire, même, il a plusieurs problèmes face à une petite église qui se dégrade. Bien sûr, il a le problème des moyens, mais aussi il a le problème de constituer un dossier face au labyrinthe des aides. Comment faire? Donc, au Grand Prix Pèlerin du patrimoine, nous aidons à constituer ces dossiers. Nous sommes le premier pas, la première marche pour mettre en lumière et pour se faire reconnaître. Et ça, croyez-moi, ça compte.
Dernière question, Catherine Lalanne. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec l'épidémie du Covid cette année, eh bien les journées du patrimoine remportent un succès bien moindre?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Nous ne sommes pas devins et nous allons le voir. Si les Français sont tellement assoiffés de sens et de beauté qu'ils peuvent aussi se ruer sur ces journées du patrimoine en respectant les gestes barrières. De toute façon, il est important pour chacun d'entre nous d'y participer. Vous savez, les métiers du patrimoine ont été très fragilisés par la crise du Covid, les guides conférenciers, tous les métiers qui sont au chevet du patrimoine souffrent. Alors je pense qu'il est aussi de notre devoir citoyen de les aider, de montrer notre intérêt et d'y participer en étant prudent et en respectant les gestes barrières.
Je vous remercie, Catherine Lalanne, et je rappelle donc le dossier du pèlerin consacré cette semaine au patrimoine. Merci.
Merci à vous.
Le patrimoine, c'est aussi l'affaire de la jeunesse. Sophie Laurent, grand reporter histoire et patrimoine au Pèlerin et présidente de l'association des journalistes du patrimoine, a rencontré des responsables d'associations qui impliquent les jeunes. Bonjour Sophie Laurent.
Bonjour.
Alors vous nous racontez dans votre dossier l'histoire de cette femme qui est présidente d'une association de sauvegarde du patrimoine, qui voyait des enfants qui s'ennuyaient, qui tournaient autour d'une petite église dans la campagne, et puis finalement que ces enfants qui jetaient des cailloux, etc. Bon, et elle leur a dit, est-ce que vous voulez connaître l'histoire de cette église? Et à partir de là, eh bien, ces jeunes se sont impliqués et sont devenus, n'est-ce pas, des guides de leur église. Racontez-nous cette histoire.
Oui, tout à fait. En fait, il s'agit de Nanou Bouillet, qui fait partie maintenant du réseau Église Ouverte, et qui, au départ, voyait ses enfants préadolescents et jeunes adolescents, qui tournaient autour de l'église de Mont-Devant-Fasset, dans la Meuse, qui est une église assez remarquable, située sur une petite colline à l'extérieur du village. Et elle se disait, avant qu'ils fassent des bêtises et qu'ils commencent à taguer ou à casser les vitraux, je vais les mettre un peu au boulot. Alors elle a commencé par leur dire, tiens, si vous m'aidiez à faire un peu de ménage et tout ça. Et en échange, elle leur offrait un coca, des gâteaux, et elle nouait le contact. Et petit à petit, elle les a intéressés au patrimoine, en l'occurrence religieux, de leur village. Et elle a commencé à leur proposer tout un programme pour devenir des jeunes guides pour les touristes qui s'arrêtaient dans cette église. Alors c'est des guides bénévoles, bien sûr, qui racontent à leur manière, à leur niveau, des petites histoires autour de l'église. Et alors ils sont tout contents parce qu'ils ont de temps en temps un petit pourboire. Et puis, à partir de cette expérience, elle a tiré une méthode pour sensibiliser les jeunes au patrimoine, et particulièrement au patrimoine religieux. Et elle a, j'allais dire, exporté cette méthode dans tout un réseau d'églises autour, dans la région. Et aujourd'hui, cette dame est formatrice de formateurs. Et elle travaille d'un côté avec les associations de sauvegarde des églises, de l'autre avec l'éducation nationale, pour stimuler une nouvelle génération d'amoureux du patrimoine, on va dire.
Oui, parce que ces jeunes, effectivement, bon, souvent n'ont pas de culture hein, religieuse, et comme vous le soulignez, n'ont pas non plus de culture villageoise hein, pour oui. ce patrimoine de proximité, hein, ce qu'on appelle
Tout
le patrimoine
fait,
de proximité.
Les deux vont de pair, hein. Ouais. En fait, les grands-mères ne sont plus des acteurs de transmission, parce que les familles bougent aujourd'hui beaucoup, et souvent les enfants ne vont pas forcément en vacances dans le village de leurs aïeux, ou alors même ils sont dans une ville qu'ils ne connaissent pas du tout, enfin, et ils se sont jamais intéressés, personne ne les emmène au catéchisme, personne ne les emmène à la messe, donc souvent l'église, ils ne sont jamais rentrés. Et ils n'ont jamais entendu d'histoire à propos de cette église. Donc tout est à faire, je dirais, en l'occurrence.
Et ces enfants, ces jeunes, puisque ce sont des adolescents, gagnent aussi en éloquence quand ils expliquent aux visiteurs ce qu'est cette église, son histoire, etc. C'est une véritable valorisation pour eux.
Absolument, et ça leur ouvre des perspectives. Bon, elle s'adresse particulièrement aux jeunes qui sont là l'été dans le village. Donc c'est pas ceux qui partent en vacances à l'autre bout du monde et qui acquièrent une culture très large. C'est ceux qui s'ennuient justement, qui ne savent pas quoi faire d'eux. Et donc finalement, ça leur ouvre des perspectives, effectivement, ça les valorise, ça leur apprend à bien dire un texte, ça, parce qu'ils doivent apprendre par cœur. C'est tout un travail qui se retrouve aussi dans leur parcours scolaire, parce que là maintenant, elle a une dizaine d'années de recul, et elle voit bien que certains, ben, y a des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé, et qui, pas forcément dans le patrimoine, mais parfois oui, qui s'ouvrent à eux, parce que ça leur donne un autre statut aussi, enfin ça participe à leur éducation, en tout cas c'est sûr, et c'est bénéfique pour le village et pour eux.
Sophie Laurent, oui, toujours dans cette idée que le patrimoine peut être d'un lieu d'éducation, il y a le cas de Saint-Denis, hein, de la basilique de Saint-Denis, donc tout à côté de Paris, où finalement des élèves, des habitants de Saint-Denis, des jeunes, se sont appliqués en quelque sorte dans ce lieu qui est en train d'être restauré, puisqu'il y a une flèche qui a été enlevée, une flèche qui était très lourde, hein, 2400 tonnes de pierre. Cette flèche a été enlevée et donc aujourd'hui il s'agit de la reconstruire et les jeunes finalement sont impliqués dans cette reconstruction. Racontez-nous cette histoire de flèche et de ces jeunes.
Cette histoire de flèche. Ah oui, c'est une
décidément, on parle beaucoup de flèches en ce moment entre Notre-Dame de
oui,
Paris
oui,
ben et Saint-Denis.
C'est une flèche parisienne oui. qui a été démontée à la fin du 19e siècle pour éviter qu'elle s'écroule. Et puis, bon, ben, on en est resté là. Et il y a tout un projet porté par les habitants de Saint-Denis de remonter cette flèche avec quelques-unes peut-être des pierres d'origine, mais surtout des pierres retaillées à l'identique. Donc c'est un chantier énorme qui va être fait dans les règles de l'art, qui va s'étaler sur 10 ans. Et c'est un peu comme le projet du château fort de Guédelon. L'idée, c'est de profiter de ce chantier pour sensibiliser la population au métier de taille de pierre, de forgeron, que sais-je encore, mais aussi de leur expliquer c'est quoi une basilique, c'est quoi une flèche, comment ça se construit, pourquoi, dans quel but, comment on la décore. Enfin bref, une initiation au patrimoine religieux, à l'histoire de France, tout ça en même temps. Et donc cet été, et encore là pendant les journées du patrimoine, des ateliers expérimentaux sont ouverts à qui le veut, qui s'inscrit. Mais évidemment, il y a énormément d'enfants qui viennent et parfois avec leur classe, pour se sensibiliser à tout ça en voyant travailler des tailleurs de pierre, des forgerons, et en se faisant expliquer quel va être ce chantier.
Et puis, il y a l'histoire de ce forgeron de famille mauritanienne qui s'est impliqué dans cette restauration. Il a un tout autre métier dans la journée, mais il s'implique dans la restauration de la basilique lors de ses heures de loisirs.
Oui, ben, les démonstrateurs, qui sont des professionnels des métiers du patrimoine, sont eux-mêmes, pour la plupart, des habitants de la région. Et le forgeron dont vous parlez, Bakary Yatera, est héritier d'une famille de forgerons traditionnels qui exerçait en Mauritanie. Et il a appris le métier avant de venir en France. Et donc, évidemment, quand il a croisé la route de l'association qui gère le projet de la reconstruction de la flèche, il a proposé ses services. Et voilà, ça, c'est des rencontres qui se font comme ça, grâce au patrimoine qui est quand même quelque chose de très fédérateur.
Je vous remercie, Sophie Laurent. Je vous remercie. Et l'on referme ce dossier du patrimoine religieux à l'occasion des Journées européennes du patrimoine avec Gaëlle Delabrosse, grande spécialiste des chemins de pèlerinage. Bonjour Gaëlle Delabrosse.
Bonjour.
Vous collaborez au Pèlerin, pour lequel vous avez piloté un hors-série sur les pèlerinages. Vous êtes éditrice aux éditions Salvator. Et puis, vous avez publié aux presses de la Renaissance le guide des chemins de pèlerinage. Alors, une première question. Est-ce qu'un chemin de pèlerinage, est-ce que ça fait partie du patrimoine à la fois matériel et immatériel ?
Oui, en effet, il faut distinguer le patrimoine matériel. C'est tout d'abord, bien sûr, la linéarité des chemins. On a par exemple le plus connu qui est le chemin de Saint-Jacques, où il y a quatre grands départs. En Espagne, il y a plusieurs routes. Et l'UNESCO, d'ailleurs, a proclamé donc le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France, il y a tout juste 20 ans. Il l'a inscrit sur la liste du patrimoine mondial. C'est donc un bien en série. Et puis le Conseil de l'Europe également qui a reconnu un certain nombre de chemins, le chemin de Saint-Jacques, la Via Francigena qui va de Canterbury à Rome, le chemin de Saint-Martin de Tours qui vient de Hongrie, le chemin de Saint-Olaf qui est en Scandinavie, et le dernier c'est le chemin sur les pas des Huguenots qui va de la Drôme jusqu'en Suisse. Eh bien ce sont des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et donc ils font partie du patrimoine matériel en tant que tel. Voilà, ça c'est la première distinction. Et pour ce qui est du patrimoine immatériel, eh bien là il y a toutes ces traditions de pèlerinage qui font partie aussi de ce qu'on appelle la piété populaire. Qui révèle cette paternité, puisque le patrimoine vient du mot pater, et donc on voit bien que c'est la même racine. Et d'ailleurs, cette année, les Pardons Bretons et les Troménies, les Troménies ce sont ces pèlerinages en cercle, comme la Troménie de Locronan, ont reçu le label de patrimoine culturel immatériel en Bretagne. Voilà. Et de manière un peu plus poétique, on va dire, je pense que les chemins sont une sorte de conservatoire de valeurs. Et en ce sens, ils font partie de notre patrimoine immatériel. On y retrouve toutes ces valeurs qu'on a un peu oublié, comme l'hospitalité, la fraternité, la solidarité, la tolérance, et puis j'en oublie bien sûr.
Et alors ce que vous expliquez effectivement, c'est que lors d'un pèlerinage, on va découvrir effectivement des sanctuaires, des petites chapelles, enfin tout ce que le patrimoine religieux peut offrir, mais que ce patrimoine que l'on va découvrir, on le mérite souvent au terme d'heures et d'heures de marche, sous le soleil, parfois sous la pluie. Donc c'est une, On le gagne en quelque sorte, ce patrimoine religieux que l'on découvre.
Tout à fait, oui. C'est pas du tout pareil d'arriver à Rocamadour en voiture que d'y arriver après avoir traversé des rivières, marché pendant 30 km sous le soleil, sur les côtes du Lot. Et donc je pense que c'est effectivement une manière vraiment la meilleure manière de découvrir le patrimoine, c'est d'y arriver à pied. Hein. Il y a par exemple ces cathédrales hein, qui font le chemin du Trobreil. Vous savez, le Trobreil, c'est ce pèlerinage qui fait le tour de la Bretagne par les 7 anciens évêchés. Et donc on découvre ces cathédrales, c'est vraiment le but de l'étape. À Malo, Saint-Brieuc, Tréguier, etc. Voilà, et puis on peut multiplier les exemples. Par exemple, au départ du Puy, hein, on part de cette merveille qui est la cathédrale du Notre-Dame de l'Assomption avec cette Vierge noire, ou le chemin de Charles Péguy, où on marche aussi vers la cathédrale de Chartres, hein, qu'on voit à travers les blés depuis un jour avant d'y arriver. Voilà, c'est une manière de désirer le patrimoine et donc de le gagner, comme vous disiez, ce qui n'est pas du tout pareil, en effet, que d'y arriver en voiture, en car, en train, que sais-je. Et puis, je citerai aussi juste une chose, c'est le petit patrimoine sacré hein, qu'on oublie parfois, parce qu'on ne peut pas toujours y accéder en voiture. Et les croix de chemin, ce sont ces oratoires. Par exemple, quand on fait le chemin des rois pour aller à la Sainte-Baume, jusqu'à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, eh bien, on traverse, on rencontre tous ces oratoires qui ont été édifiés par la piété populaire, les fontaines sacrées aussi, hein, en Bretagne ou dans les Landes. Voilà, tout ce petit patrimoine qu'on redécouvre en marchant.
Dernière question, Gaëlle Delabrosse. Cette année, avec la Covid-19, comment se sont déroulés ces pèlerinages? Alors, bien sûr, on pouvait rester en France, hein, là, je pense aux Français, mais par exemple, celles et ceux qui voulaient aller en Espagne, comment ça s'est passé, Compostelle, cette année?
Alors, en effet, il y a eu, je pense, un cinquième de moins de pèlerins. L'année dernière, il y a quand même eu 350 000 pèlerins qui sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui est énorme.
Ah oui, énorme, effectivement.
L'année prochaine, ça serait une année jubilaire. Donc effectivement, il y a beaucoup de pèlerins qui se sont dit « Covid plus année jubilaire l'année prochaine, on va se réserver l'Espagne pour l'année prochaine ». Voilà. Et donc, il y en a beaucoup qui sont restés en France et qui en ont profité justement, et c'est ça qui est super, c'est qu'ils en ont profité pour découvrir d'autres chemins. Et donc, là, moi, j'ai eu un certain nombre de responsables des chemins, hein, parce que vous soulignez tout à l'heure le rôle des bénévoles et des associations, et ça, c'est vraiment primordial, et des baliseurs aussi, hein, qui balisent ces chemins. Et bien, donc, tous les pèlerins, en fait, enfin, la plupart des pèlerins sont restés en France et... On redécouvre ces chemins de proximité et ce patrimoine de proximité d'une autre manière.
Je vous remercie, Gaëlle Delabrosse. Je rappelle que vous êtes l'auteur du guide des chemins de pèlerinage et c'est publié aux presses de la Renaissance. Merci.
Merci, bonne route.
Le rire et le sacré ont une longue histoire. Rire de Dieu, rire sur Dieu, rire avec Dieu, rire sans Dieu. Dans des sociétés qui ont évacué la transcendance, de quel rire s'agit-il? Qu'est-ce que disent ces rires? À l'heure du procès de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, j'ai ouvert le livre de Bernard Sarrazin, Le rire et la mort de Dieu, aux éditions Bayard. Un livre d'une grande érudition qui raconte cette histoire du rire sacré et du rire profane dans les religions monothéistes et la littérature. Bernard Sarrazin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez enseigné la littérature à la Sorbonne et puis après à Paris 7 Diderot. Et le rire en tant que sujet d'étude vous passionne. Vous avez écrit précédemment « Le rire et le sacré ». La Bible parodie. Alors, pourquoi faire du rire un objet d'étude?
J'ai travaillé sur un auteur qui s'appelle Léon Blois, qui est un polémiste virulent, qui n'aurait pas tué une mouche, hein, mais qui lançait une foudre sur l'incroyance montante. Enfin, c'était un prophète du nihilisme moderne. Et c'était un grand ami de Jarry, un de ces artistes montmartrois, qui est jouer devant les bourgeois qui étaient venus s'encanailler au Chat Noir à Montmartre. Et il allait tous les jours à la messe. Après quoi, il passait au bistrot. C'était un homme plein de contradictions, et le rire connaît ces contradictions. Il y a un rire positif et il y a un rire négatif, si vous voulez. Le rire, il est contre, il est subvertif, ou bien il est bienveillant, on rit avec ou on rit contre. Et c'est une émotion ambivalente. C'est le détente après la tension. Donc on a eu peur et on se détend dans le rire, on éclate.
Et ce que vous écrivez, c'est que le rire, bien sûr, c'est le propre de l'homme, qu'il soit le fruit du hasard ou de la nécessité, une erreur du créateur ou miracle de l'évolution, l'homme est la seule espèce dans la création qui soit capable de dire non à Dieu ou à la nature, d'accepter ou non ses limites ou de prétendre les dépasser. L'homme est le seul capable de rire, y compris de soi, de dérision ou de joie, un rire de résistance, d'extase, un rire qui célèbre la vie.
Oui, je ne me suis pas attardé dans la définition du rire, parce que le rire, ça n'existe pas tout seul, il y a des rires.
Deux sortes de sacrés pour vous, Bernard Sarrazin. Il y a le sacré qui exclut le rire, et puis celui qui l'accueille.
Il y a presque une formule passe-partout qui dit « Jésus n'a jamais ri ». Moi, je parle à partir du christianisme, mais cette idée. Jésus n'a jamais ri. Et aucune raison. En fait, c'est pas Jésus qui n'avait jamais ri. C'est plutôt les chefs religieux,
l'institution,
oui, qui a peur du désordre.
Alors c'est Nietzsche, qui a proclamé la mort de Dieu, qui disait les chrétiens pleurent le vendredi, mais oublient trop souvent de rire le dimanche.
Il faut bien le reconnaître. C'est le rire est rare. Quand on entre à l'église,
il y a eu quand même dans l'histoire de l'église, au Moyen-Âge notamment, on pouvait rire, on riait.
Quand on fait l'histoire du
rire, on riait de Dieu, oui.
On découvre, mais c'est par éclat. D'une part, c'est par éclat, et d'autre part, il s'agit plutôt d'un rire mystique qui se soucie peu de l'institution. Et souvent des fortes têtes les mystiques. Parce que le christianisme, le premier christianisme a été un christianisme ascétique, et qui insistait sur les pleurs et la culpabilité, etc. Il avait un côté noir, si vous voulez, qu'il faut reconnaître, quoi. Il est apocalyptique, On ne sait pas très bien si on va aller en enfer ou au ciel, et c'est pour demain.
Bernard Sarrazin, vous dites que l'Église catholique, puisque c'est essentiellement d'elle dont on parle, a loupé le coche. Finalement, qu'elle n'a pas su rire.
Oui, c'est le fait de la réforme et de la contre-réforme. Il y a eu un rire humaniste chez quelques figures qui ont vraiment couvert le siècle, puisque, par exemple, quand Erasme a écrit, c'était un best-seller, l'éloge de la folie à travers l'Europe. Thomas More, dans son Utopie, Thomas More dit les bouffons, il faut les choyer, il faut les écouter, ils détiennent, ben justement, cette possibilité de questionner Dieu, d'interroger Dieu. D'interroger la vérité, fût-elle royale ou divine, une autorité, quoi. Le bouffon fait partie de la société, et c'est une vieille histoire. C'est dans la mythologie aussi, les historiens des religions parlent du trickster, qui est un personnage ni Dieu, enfin, entre Dieu et diable, et qui se permet, qui est très joyeux et très, qui prend des risques, Il est en quelque sorte le messager entre l'homme, le ciel et la terre.
En tout cas, c'est intéressant effectivement de voir que l'homme politique et le grand chrétien que fut Thomas More, qui a payé de sa vie pour la liberté qu'il défendait, eh bien, voulait protéger les bouffons, les amuseurs.
Et je considère, moi, que le jour où on a assassiné les dessinateurs de Charlie Hebdo, c'était les bouffons, non plus du roi,
mais
de la République française qu'on assassinait. C'est pour ça que le peuple s'est levé.
Et qu'il a défilé. Hein, oui.
Pour défendre cette possibilité d'avoir un bouffon, hein, comme une sorte de contrepoids nécessaire au dieu, et surtout quand c'est le dieu tout-puissant, comme dans les religions monothéistes.
L'humour en islam, le rire en islam, notamment, on le trouve chez les soufis. Bernard Sarrazin, vous consacrez un petit chapitre à cet humour, à ce rire dans le soufisme.
Oui, il est essentiel. Hein. Il est essentiel.
Le soufisme étant quand même une minorité, vraiment une petite minorité dans l'islam. Hein, quand même.
C'est une minorité, mais elle est très, très, très importante théologiquement. Parce qu'elle elle évoque un autre dieu qu'un dieu d'autorité, un dieu tout-puissant et écrasant. Hein. Elle évoque un dieu qu'on peut tutoyer, hein, qu'on peut interpeller, qu'on peut questionner, dont on peut se moquer même.
Hein. Un dieu complice. Hein.
Mais alors, dans une perspective de complicité, voilà. Alors, parce qu'on peut se moquer de Dieu gentiment, ou méchamment, puisque le rire, c'est peut être méchant ou gentil. c'est fondamental.
Alors, nous allons parler maintenant, Bernard Sarrazin, de la deuxième partie de votre livre, consacrée au rire et à la mort de Dieu. C'est-à-dire, en fait, le rire dans des sociétés qui ont évacué Dieu. Et vous dites que finalement, cette sortie de Dieu a entraîné deux types de rire. Le rire, un rire de masse, on va dire, hein, un rire pas très drôle, à vrai dire, et puis, qu'on trouve effectivement dans les médias, notamment la télévision, et puis le rire d'une élite, hein, une élite pour vous nihiliste. Et dans les deux cas, on arrive à la mort du rire. Et là, à un moment donné de votre livre, Le rire et la mort de Dieu, aux éditions Bayard, vous faites mention d'un humoriste que vous aimez beaucoup, c'est Raymond Devos. Hein, Raymond Devos qui tutoyait Dieu, qui riait de Dieu, qui riait avec Dieu. Et Raymond Devos qui finalement disait que bon, un rire qui ne s'appuyait pas sur des valeurs, hein, eh bien effectivement était un rire mort. Mais déjà, on va écouter Raymond Devos, ce grand humoriste, qui nous parle de son rapport avec Dieu.
J'ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de lui. Dans un petit village de Lozère, vous savez, abandonné des hommes, il n'y avait plus personne. Et en passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré. Et là, j'ai été ébloui par une lumière intense, insoutenable. C'était Dieu. Dieu en personne. Dieu qui priait. Je me suis dit, qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui-même. Pas lui, pas Dieu. Mais non, il priait l'homme. L'homme, il veut prier moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, ô homme, si tu existes, un signe de toi. J'ai dit, mon Dieu, je suis là. Oh, il a dit, miracle. Une humaine apparition. J'ai dit, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme puisque c'est vous qui l'avez créé? Il m'a dit, oui, mais il y a si longtemps que j'en ai pas vu un dans mon église que je me demandais si c'était pas une vue de l'esprit.
J'aimerais revenir avec vous sur ce rire à deux vitesses. Ce rire, donc, ce rire médiatique et puis ce rire de l'élite. Et dans les deux cas, c'est pour vous un rire qui, ne s'appuyant plus sur grand-chose, finalement n'est plus drôle du tout. Pourquoi, selon vous, enfin c'est votre thèse, hein, pourquoi, selon vous, le rire contemporain n'est plus drôle ?
Risque de ne plus être drôle parce qu'il perd toute signification. C'est-à-dire que je crois qu'il existe un rire pour rire, hein, un rire gratuit.
Mais est-ce que c'est parce qu'il s'est séparé du sacré complètement qu'il n'est plus drôle?
Mais il n'est plus drôle à partir du moment où il ne défend aucune valeur. C'est-à-dire qu'il est, à partir du moment où il ne se bat pas, où il y a un élément rire de combat, il y a un élément subversif dans le rire qu'il faut absolument garder, même dans les rires très laudatifs, hein. Il y a toujours un combat, ça va être contre l'Église ou les curés ou les autorités la plupart du temps. Et l'institution, c'est le rire est par définition libérateur.
Oui, là vous parlez du rire anticlérical, effectivement, qui pouvait être tout à fait drôle, et que donc, maintenant aujourd'hui, comme il n'y a plus de rire anticlérical, le rire qui a succédé à ce rire anticlérical n'est plus un rire drôle.
Le rire est un, s'il n'y a pas un élément de rire, de combat, de négation, de contestation, le rire s'affadit, quoi. Il devient insignifiant. Il n'y a pas de rire d'ordre sans désordre. C'est ça ma thèse. Il n'y a pas de sagesse sans un peu de folie, au moins. Un grain de folie, comme on dit.
Vous voulez dire que quand toutes les barrières ont été finalement abattues, il ne reste plus grand-chose. Finalement, le rire ne peut plus s'exprimer.
C'est le propre, en tout cas, du rire dans les religions transcendantes, de la transcendance. Ce sont ces religions-là qui ont coupé le rire du religieux, le sacré du profane.
Alors, le rire, ça sera la conclusion, Bernard Sarrazin, le rire est universel, il est libérateur. Est-ce que l'objectif final, ça ne serait pas que le rire soit un immense, le grand fédérateur de l'humanité? C'est-à-dire que nous puissions tous rire ensemble. La fraternité du rire.
C'est une belle utopie.
Oui.
Esquivel, à mon avis,
le prix Nobel de la paix, c'est cela, l'avait dit, non? Dans votre livre, vous la citez en tous les cas.
Oui, le prix Nobel de la paix qu'Adolphe Pérez Esquivel était, vient de proposer la création d'une revue internationale où les religions pourraient écrire des satires les unes des autres, sur les autres, et faire échec aux violents.
Ça, c'est une bonne initiative, non?
Oui, parce que moi, je pense, en effet, le rire est l'antidote de la violence. On ne peut pas tuer quelqu'un. Logiquement, le rire coupe la violence. C'est un langage, le rire. C'est un langage et on est dans le symbolique. Les pauvres dessinateurs de Charlie Hebdo ont... c'est très émouvant de lire le livre de Philippe Laurençon, qui est Le Lambeau, qui présente l'équipe, mais l'équipe qui écrit qui peut écrire contre Dieu, qui est capable d'un rire d'une violence extraordinaire, et on reste dans le symbolique. Et c'est cette équipe qui nous décrit d'assez près, qui lui a survécu, était celui de gens tout à fait non violents, des poètes un peu, des gens d'une gentillesse phénoménale, tous. Ceci dit, la proposition que vous faites est un peu utopique, dans la mesure où j'imagine qu'il y a deux pôles dans l'homme, le plaisir de détruire et le plaisir de créer.
Mais il y a aussi, et ça sera ma conclusion, le plaisir de rire ensemble.
Et le plaisir de rire ensemble devrait être un peu plus développé pour développer une culture du rire, y compris dans nos sociétés multiculturelles. Moi, j'attends ça quand mon ancien prof de mon ministère de l'Éducation nationale.
Je vous remercie, Bernard Sarrazin. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le rire et la mort de Dieu. Et c'est publié aux éditions Bayard. Je vous remercie. Et l'on poursuit sur le rire et Dieu avec l'humoriste Farid Abdelkrim, bien connu des jeunes internautes pour sa série « Un musulman qui te veut du bien » avec 135 capsules, c'est leur nom, diffusées sur Internet. Farid Abdelkrim, bonjour.
Bonjour.
j'ai retenu pour notre sujet, le rire est Dieu, la capsule sur Allah. Allah a-t-il le sens de l'humour, publié il y a un an et demi environ. Alors, est-ce que c'était un message à l'adresse des musulmans ou plus largement aux croyants de toute religion ?
C'est un message, oui, à l'adresse des musulmans d'abord et puis des croyants beaucoup plus globalement, puisque Dieu n'existe qu'à travers les interprétations que nous en avons les uns et les autres. Et l'interprétation que moi j'ai de Dieu, elle se base sur une tradition qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et moi qui crois en cette tradition, je pense que Dieu a créé les hommes avec cette dose d'humour qui les caractérise, et notamment cette capacité à rire qui ne s'apprend nulle part, qui est innée et naturelle chez l'être humain. Donc je pense que Dieu a effectivement le sens de l'humour. La question qui demeure, c'est de savoir de quel humour s'agit-il. Et là, encore une fois, c'est laisser à l'appréciation des croyants eux-mêmes, certains pensant que Dieu pourrait avoir des limites et ne pourrait pas rire de tout. Or, moi, je pense que Dieu est en mesure de rire de tout, avec tout le monde, à la différence de ce que pouvait penser Pierre Desproges et dire Pierre Desproges. Et partant de là, donc, je pense que croire qu'un Dieu qui s'offusquerait qu'on rit de son prophète ou qu'on rit même de lui ne mériterait pas d'être Dieu. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire dans cette capsule et de dire aux croyants, détendez-vous, Dieu n'a pas besoin que vous preniez sa défense, ni le prophète, et une caricature reste pour moi une perception que l'on peut avoir de comportement, d'attitude, d'expression que peuvent avoir les individus, et bien entendu en grossissant le trait. Et parfois je trouve que les caricatures, quelles qu'elles soient, sont bien en dessous de la réalité. Il faudrait peut-être juste reprendre la réalité telle qu'elle est pour avoir la caricature en.
Que répondez-vous à celles et ceux qui disent effectivement, on doit pouvoir rire de tout, mais quand même, il faut quand même mettre certaines limites parce qu'il y a des catégories de personnes qui, bon, prennent mal, qui ne comprennent pas, qui sont blessées, et il faut respecter leur sensibilité. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Qu'on entend souvent, hein ?
Ben écoutez, le problème de cet argument, c'est que si on se met à écouter les sensibilités, les susceptibilités des uns et des autres, on ne va plus rien dire du tout. Donc je pense qu'il y a d'abord nécessité de rappeler le droit, le cadre dans lequel on est, c'est-à-dire que la liberté d'expression fait effectivement partie de notre histoire, qu'elle est une réalité aujourd'hui dans notre pays, et que on peut se sentir effectivement blessé par ce qui a été dit, mais cela ne doit pas nous amener à vouloir interdire ou à pousser les individus à ne plus faire et à ne plus exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Ce qu'on voit en réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de pratiquer la censure, sauf qu'à un moment donné, il faut comprendre que ce n'est pas possible, ça ne se pratique pas chez nous. Ça existe dans d'autres pays, mais pas ici chez nous. Donc ce qu'il faut, c'est rappeler aux gens qui se sentent blessés que le problème est peut-être ailleurs, les concerne. Ils ont peut-être un souci avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ils ont peut-être peur d'être dévalorisés, mais encore une fois, il faut peut-être aussi prendre le temps d'expliquer aux gens ce qu'est la presse satirique dans notre pays, son histoire, ses origines, ce qu'est la caricature et la nécessité qu'on puisse avoir recours à ce type de mode d'expression pour pouvoir dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement, ou en tout cas qui ne pourraient pas atteindre leur objectif si on les disait autrement.
Alors il y a aussi l'argument qui est avancé de dire, voilà, concernant par exemple l'islam, eh bien il peut y avoir une question de maturité, voilà, d'une question de maturité qui empêche que l'on puisse rire de telle ou telle caricature ou tel sketch. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Est-ce que pour vous c'est en quelque sorte une sorte de racisme ?
Moi il me semble que c'est important de le préciser. Les musulmans ne forment pas un bloc monolithique. Oui. Il y a énormément de musulmans qui s'accommodent très bien des caricatures, de l'humour, des sketchs, etc. Et puis, il y a une partie d'entre eux qui, effectivement, ont beaucoup de mal avec cela. Alors, on peut l'expliquer par un manque de maturité, mais je pense que c'est plus un manque de compréhension de ce que pourrait être en réalité le Dieu auquel il croit. Et là, il faut peut-être revenir à ce qui est enseigné dans les mosquées, où les discours qui sont propagés ici ou là, qui sont des discours identitaristes où on met en relief effectivement cette idée qu'il y aurait de l'islamophobie à tous les coins de rue, du racisme à tous les coins de rue, que les musulmans seraient détestés parce qu'ils détiennent la vérité, qu'on insulte Dieu et le prophète à cause de cette raison-là. Eh bien, moi, il me semble qu'il faut aider ces gens-là, si tant est que c'est possible, il faut les aider à grandir. Mais il faut aussi être en mesure de rappeler et de dire que là, majorité, l'écrasante majorité des musulmans se moque pas mal de ce qui peut être dit ici et là et parfois rit de bon cœur à une caricature, à un sketch, à une blague, à un bon mot. Et ça, c'est important de le dire. Alors si on veut s'intéresser qu'au train qui arrive en retard, on peut le faire, mais je ne crois pas que ça va rendre service. Donc il faut absolument, je crois en tout cas, rappeler que ce qui s'est passé en 2015 est absolument dramatique, condamnable sans aucune ambiguïté. On ne tue pas des gens parce qu'ils ont pris un crayon et qu'ils ont fait un dessin. Ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, c'est aider les musulmans à comprendre le monde dans lequel ils vivent, parce que je pense que certains d'entre eux, effectivement, sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas compris dans quelle planète ils étaient, sur quelle planète ils étaient, dans quel monde ils vivaient. Et là, en l'occurrence, quand je parle de monde et de planète, je parle de la France, qui est un pays, encore une fois, qui, Dieu merci, nous permet de pouvoir exprimer nos points de vue et nos opinions, et pourvu que ça continue. Donc, il y a un vrai travail au quotidien pédagogique à faire. C'était le rôle de cette capsule, en tout cas, de contribuer à ce que le débat soit posé. Dieu a-t-il le sens de l'humour ? Moi, je pense qu'il l'a. Il nous a créé avec cette capacité, encore une fois, je le répète, cette capacité à rire, qui est une sorte de mécanique que nous avons. Moi, je m'amuse souvent avec ma fille, et je lui dis, ah, t'es pas capable. Je compte jusqu'à 3 et t'essayes de parler. Et c'est l'effet inverse qui se produit. Donc, c'est même pas un truc qui est provoqué. C'est le contraire qui se passe. Elle essaie de pas rire. Et puis, à chaque fois, ça fonctionne. Elle rigole. Et le rire, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Je ne pourrais pas vivre sans humour. Et oui, certains de ces musulmans devraient apprendre à rire. Ça leur permettrait de prendre du recul. Et sans doute qu'en prenant du recul, ça leur permettrait de s'élever. Et pourquoi pas de s'élever spirituellement.
Alors, Allah a-t-il le sens de l'humour ? Eh bien, on conclura, Farid Abdelkrim, avec votre capsule. Merci Farid Abdelkrim.
Merci à vous.
Rire, ah oui, mais pas de n'importe quoi, ni n'importe quand, ni n'importe où, ni avec n'importe qui. Quoi ? Qui décide pour les limites et tout ? Oh, bah, ça n'a pas l'air très compliqué, hein. Tu touches pas à Dieu, au Coran, au prophète et à l'islam et aux musulmans. Bah, après... Le reste, et c'est les musulmans que ça détend pas. Et selon eux, nul n'est autorisé à vanner Dieu, le Coran ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, suffit de feuilleter un peu le Coran pour se rendre compte que les moqueries et les railleries à l'encontre de Dieu, du Coran et du prophète y occupent une place conséquente. Ça veut quand même dire que l'auteur du Coran lui-même, il s'est pas permis de censurer celles et ceux qui se moquent de lui. Lui, c'est Allah. Hein? Se moque de lui, de son livre et de son messager. Eh, là, j'aimerais vraiment que tu considères le truc juste un instant. Allah accepte que des humains se moquent de lui. Il les laisse faire et en plus, il le raconte dans son livre. Mais alors, où c'est que tu as vu qu'il fallait venger Allah, le Coran ou son prophète ? Alors, pour résumer, est-ce que Dieu tolère qu'on se moque de lui ? La réponse est oui. Il tolère même qu'on ne croit pas en lui, c'est dire, hein ? Tolère-t-il qu'on se moque du Coran ? La réponse est oui. Pourquoi Dieu accepte-t-il cela ? Peut-être bien parce que lui... Il a le sens de l'humour. C'est en tout cas ce que croit un musulman. Un musulman qui te veut du bien.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.